Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Jérôme Pinault. Dans un instant, vous savez que tous les dimanches, les GG remontent le temps. On va monter à 2000 aujourd'hui, il y a 25 ans, jour pour jour. Marie-Josée Pérec quittait les Jeux de Sydney. On va se replonger dans cette séquence qui a quand même marqué l'histoire du sport en France. En fin d'émission, je vous rappelle, venez jouer avec vos GG dans les Jeux du sport. Ce week-end, participez et remportez votre Ghetto Blaster de la marque Muse pour écouter de la musique, des disques, des cassettes, la radio. Ça marche en Bluetooth, vous pouvez tout faire avec. Appelez le 3216, touche 4.
Je vois très bien Sarah parader dans la rue avec
le 3216.
Le truc est 10 fois plus gros que moi.
Je l'ai vu, c'est possible en plus.
C'est possible?
Ouais, c'est possible. Bah, Ghetto Blaster, c'est des
euros. Ça pèse combien?
Ça pèse...
plus lourd que toi.
C'est pas très lourd parce que c'est la grande qualité. Voilà, ouais. ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc je vous rappelle, sport au 7-32-16. T'étais hip-hop, toi?
Mais pas du tout.
Non, je te vois bien.
Non, mais pas du tout. Tu me vois en hip-hop. Moi, c'était la musique française, les 2B3, tu vois les trucs.
Bah, quand la musique jeune, française, les 2B3. Hein, super.
Non, mais quand
même. Musique française, quoi.
Tu vois, non, mais parce que c'était un groupe français. J'ai la culture des boys bands. Quand j'étais jeune, c'était le début des boys bands qui arrivaient, les L5.
Sarah n'aurait pas été pote.
Mais justement, tu prends un Ghetto Blaster, tu veux mettre ta cassette de 2B3. Ouais. Hein.
On a RMC Gold.
Jérôme est choqué.
Je me demande pourquoi je ne bosse pas sur RMC Gold.
Et d'abord, donc, c'est le dernier jour pour revenir au sérieux.
Tu te rappelais des L5?
Ouais,
Sarah s'en rappelle.
Moi, c'était quoi déjà
toutes les femmes de ma vie?
Ah, mais ouais. Ah,
mais toi, que tu te rappelles de ce titre-là, ça m'étonne pas bien, tu vois. S'il y a un titre que tu te souviens,
c'est bien. On vit une matinée très curieuse sur RMC. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est le dernier jour des mondiaux d'Athènes à Tokyo. Revenons sérieux, s'il vous plaît. C'est l'heure de faire le bilan, calmement.
RMC, le ring des GG.
Le dernier effort de Jimmy Gressier, 28 secondes 42. Jimmy Gressier, il va accélérer dans la dernière ligne droite et il va passer un Éthiopien. Il est derrière Almgren. Est-ce qu'il va faire l'effort, même pour s'imposer? C'est Jimmy Gressier, est champion du monde. Jimmy Gressier est champion du monde du 10 000 mètres. C'est parti pour jusqu'au maté. Départ un petit peu léger. Rachid Mourata qui est très bien parti avec Cordell Tinch également qui fait son effort. L'Américain qui commence à s'envoler. C'est compliqué pour jusqu'au maté. Il n'y aura pas de médaille pour l'équipe de France. Et c'est Cordell Tinch qui résiste à la pression et qui s'impose en 13-01.
La France va terminer les championnats du monde d'athlétisme avec un bilan encore à définir. Hein. Évidemment, il pourrait y en avoir beaucoup ce dimanche, on l'espère. On a beaucoup d'espoir sur le 5000 avec Jimmy Gressier aujourd'hui, 8 jours après son sacre inattendu sur le 10 000. Le bilan pour l'instant, c'est donc une médaille d'or. Alors c'est mieux que Paris 2024, hein, c'est sûr. C'est mieux qu'au dernier mondiaux. Je rappelle que des leaders comme Kevin Mayer ou Sirena Samba Mayela n'étaient pas là pour blessure. Du coup, je vais vous poser la question. Les GG, les mondiaux de l'équipe de France, sont-ils réussi? J'ai donc trois noms, Marion, Sarah et Jérôme. J'ai un oui de Fred Weiss, mais un oui de Fred Weiss appuyé par Ladji Doucouré, champion du monde 2011, c'était ça, Ladji, Helsinki. On va allumer le micro de Ladji.
Ouais, c'est peut-être mieux. Hein.
C'est ça. Hein.
Non, 2005.
2005.
Ah, ça commence à dater 20 ans.
Ah, 2005. Oh là là. Pourquoi je dis 2011? Tu te rajeunis? Tant mieux, non?
Ma tenue, hein, non?
Ça va, Ladji?
Trop frais, peut-être.
Ça va?
Ça va, un peu de jet lag, mais ça va.
De retour de Tokyo. Toi, tu dis, les mondiaux réussis?
Je dirais réussi, mais pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend.
Sur le compte X des GG, vous dites pour l'instant non à 66%.
Bah oui.
Ladji, tu sais que je suis avec toi, et en fait, j'ai changé d'idée parce que tu disais le contraire, d'accord? Et là, tu viens de commencer en disant oui, mais c'est pas au niveau de nos attentes. Ça commence à se c'est compliqué comme le débat.
Mais j'aime bien l'argument déjà pour convaincre les gens. Oh les gars. Genre, vous êtes pas loin. 32-16 et WhatsApp 06-12-424-424. Direction Tokyo. Lui, il est pas encore jetlagué, ou peut-être qu'il s'est toujours pas remis du voyage de la France. C'est Aurélien Tiersin. Ça va, Aurélien?
Salut les amis.
Oui, bah, salut. Mais il est pas toujours jetlagué.
C'est vrai qu'il est toujours jetlagué. Il est toujours un peu à l'ouest. Qu'est-ce qui se dit au Japon dans le clan français, Aurélien?
Bon, déjà, on est rassuré par l'heure de Gressy, évidemment, parce qu'il y a toujours la peur du zéro humiliant. Ça, à chaque fois qu'il y a des mondiaux, des JO, on y pense en ce moment à la Fédé. Et c'est déjà pas mal. Après, c'est une énième année de transition parce qu'on a changé de président. C'est Jean Gracia qui a été élu il y a quelques mois. Il y a un nouveau DTN, Franck Binet. Romain Barras, demain, va céder sa place à Jean Galfion comme manager des Bleus. Donc finalement, on s'attarde pas trop, quoi qu'il arrive, sur les chiffres. Mais bon, voilà, au tableau des médailles, bah, la France, depuis Londres 2017, continue de plonger. Tu l'as dit, une médaille à Eugene 2022, une médaille à Budapest 2023. C'était des médailles d'argent pour le relais 4x400 et la médaille d'or pour le décathlon et Kevin Mayer. Là, c'est un titre sur 10 000 mètres. Et c'est pas terminé parce que ce qui est intéressant, comme d'habitude, et c'est comme ça que la Fédé se défend, c'est la densité de l'athlétisme français parce que mine de rien, la placing table, alors tu mets des points pour tous les finalistes, pour tous les top 8. Je savais que vous alliez vous moquer, mais vous êtes terrible.
Parce que,
la glorieuse incertitude du sport, ça se joue à un centimètre, à un centième, à un millième, et entre une quatrième place et une troisième place, malheureusement, en athlé, et ben, ça fait une grande différence. Mais à Helsinki en 2005, la G en faisait partie. Ah ouais. 18 finalistes, 18 top 8, ça c'est le record. Berlin 2009, 14 top 8, c'est la deuxième performance. Pour l'instant, on en est à 10. Il y a 3 Français sur le 5000 mètres, donc on espère Gressier, mais Schrub et Daguinos ont le potentiel pour rentrer dans le top 8, voire peut-être même de faire une médaille. Et donc, si on a 3 médailles, on n'en parlera pas. Et il y a 3 relais aussi, donc si on ne fait pas tomber de bâton, on aura au moins 14, 15, voire 16 finalistes, et donc ce serait le deuxième meilleur total de l'histoire de l'équipe de France. Donc, qu'est-ce qu'on veut en France? On veut une tête qui dépasse et rien derrière, ou alors on veut une densité.
Bah, les deux,
et
mon général,
un petit
les
peu
deux.
Moins de médailles. Moi aussi, j'aimerais bien, mais voilà, c'est comme ça.
Aurélien était excellent, il a tout expliqué, évidemment, et on veut progresser, on veut avancer, on veut continuer à montrer des choses. C'est le meilleur bilan en finale depuis des années. Moi, je trouve ça magnifique. La densité est plus importante que les résultats. Au début, quand tu veux construire, tu construis avec de la densité.
Mais ça fait 20 ans qu'on essaie de construire.
Il a expliqué. Il y a 3 relais aujourd'hui. Il y a 5000 mètres. Et si on prend des médailles,
ça qu'est-ce que vous direz? Il y a des compétitions.
Qu'est-ce que vous direz
aussi aujourd'hui, mais on va pas gagner. On le sait.
Les mondiaux sont plutôt réussis, tu dis.
Moi, c'est pour ça que je suis d'accord dans le sens où, quand on regarde la placing table, comme Aurélien l'a bien expliqué, on progresse. Après, c'est vrai que les gens veulent voir la vitrine, qui a gagné, le nombre de médailles et tout. Ok, je suis d'accord pour dire c'est pas fameux, mais si on fait le bilan général, même la Jamaïque, ils galèrent, ils ont qu'une médaille d'or. Et la Jamaïque, c'est un grand pays d'athlétisme. Ils ont que 2 sports favoris, hein. C'est le cricket et l'athlétisme. On est d'accord. Ils ont une médaille d'or au 100 mètres. Derrière, ils sont où?
Ils sont 6e dans le classement général. La France est 13e.
Mais elle a une médaille d'or comme nous.
Et 5e nation européenne.
Et du coup?
Sans même parler du classement mondial.
Et après? Là, c'est la Jamaïque.
C'est pas un bon résultat.
Non, mais c'est la Jamaïque.
La Jamaïque est 6e.
Ils ont que 2 sports. Ils pratiquent que 2 sports. La France, on pratique beaucoup de sports. Et là, on se rend compte que mondialement, il n'y a plus de petits pays, comme dans beaucoup de sports.
Qui se sont internationalisés.
Voilà, en France, on fait du sport en France. On va se dire les choses. On n'est pas un pays de sport, on le sait très bien. Donc là, on demande beaucoup de choses aux athlètes, mais il n'y a pas les moyens.
Qu'est-ce qui manque là?
Tout. Là, on est en train de nous bluffer, il y a encore 2 semaines là, avec la fête du sport. Arrêtez les gars, il n'y a rien qui se passe. On est en train de reconstruire, donc il faut laisser le temps. Et c'est vrai que tous les 2 ans, on se dit, on reconstruit. Mais faut pas se blaguer. Il n'y a rien qui est fait pour que les athlètes puissent être qualifiés individuellement dans des épreuves pour pouvoir progresser et ensuite aller voir et chercher des médailles.
Et l'équipe de France, les résultats qu'on a fait là, toutes ces finales, est-ce que c'est quand même pas positif? Est-ce que c'est pas bien
si, justement pour continuer à progresser positif, sinon on abandonne.
On peut s'appuyer sur ça?
On doit s'appuyer sur ça, on n'a que ça. Mais regardez le nombre des qualifiés individuellement. Qualifiés individuellement, il y en a. Regardez les relais. Il y a 3 relais en finale. Il y en a aucun qui a participé en individuel. Allez, Ryan Zézé sur 200 mètres. Le reste, il y a aucun Français parce que le niveau il est trop énorme. Il est trop énorme. Il y a pas les moyens. Je défends les athlètes parce que je sais ce que c'est. Mais regardez Jimmy, on comptait pas sur lui.
Jimmy Gressier,
il s'est mis en immersion. Il a fait le système international, donc il a pris les règles, il a dit ok, moi je vais faire ci comme ça. On l'attendait même pas et là il fait champion du monde. Et là on lui demande maintenant de faire une deuxième médaille. Mais ça fait combien de temps qu'il fait ça? Ça fait 4-5 ans. Après Jimmy, il est ce qu'il est. Il mâche pas les mots, mais il a pas pris le système général, on va dire français.
Il s'est préparé en marge de
ouais, bien sûr. Fédéral. Et c'est pas venu comme
c'est,
ça.
C'est comme ça dans ça tous les quelques, sports.
Dans beaucoup de sports. Mais quand on regarde les autres sports comme la Jamaïque, comme l'Australie, regardez l'Australie, ils sont combien? Ils sont derrière nous. C'est quand même l'Australie et l'athlétisme en Australie, c'est quand même énorme.
Bien sûr.
Ils sont derrière.
Il faut être donc, moi je suis positif dans ce sens-là. Mais en fait, oui, tu un bilan positif. Lucide sur les, sur
non,
les,
non,
sur les moyens.
Non, mais t'apportes un éclairage.
Si on porte un bilan positif aux mondiaux, quoi qu'il arrive aujourd'hui avec Jimmy, parce que même si Jimmy fait une deuxième médaille, ce ne sera pas mirobolant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas apporter un bilan positif parce que apporter un bilan positif, si nous médias et si vous et nous athlètes qu'on était par le passé, on porte ça, ça veut dire qu'on est suffisant. Et aujourd'hui, quand tu dis la France, je comprends, c'est un accro dans l'histoire de la Jamaïque pour ces championnats du monde. Mais si nous Français, athlètes, on se dit que faire une médaille d'or sur un championnat du monde, on se suffit. Parce c'est qu'on a fait peu. Des finales.
Je suis d'accord.
Tu veux dire, c'est en étant exigeant qu'on peut avoir des moyens aussi, qu'on peut réclamer des moyens.
Mais un message, ils vont, et oui. Là-haut, ils étaient là la semaine dernière, ils nous ont expliqué que la France était un pays de sport et qu'on faisait tout pour y arriver. Ils vont se dire, bah, c'est cool, ils sont contents. Tranquille, on en reste là. On peut pas faire ça. On a fêté l'anniversaire de l'INSEP cette semaine.
80 ans.
On peut pas se contenter, quand on est la France, d'avoir une médaille dans un championnat du monde. De l'athlétisme. Mmh. On peut pas dire ça. Si tu dis ça, tu envoies un message qui est
mauvais.
Qui est limitant.
Qui est négatif.
Ouais, mais s'il y a du progrès, est-ce que c'est pas bien déjà?
Fred, on vient de faire 10 000 km.
Il a un peu été chargé.
Il n'y a plus de
Si je peux me permettre aussi, c'est vrai qu'on a encore une fois pas beaucoup de têtes qui dépassent, mais quand on parle de l'INSEP, etc., il y a plus de 70 athlètes aidés par la Fédération française d'athlétisme et chaque athlète se plaint de ne pas recevoir assez d'aide. Mais après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on en aide que 20 et on va à fond et on laisse tomber, on va dire, une majorité? Ou alors est-ce qu'on essaye d'en aider le maximum et à côté, ces athlètes-là doivent se débrouiller avec des partenaires privés? C'est ce que Jimmy Gressier a fait avec Kipron et Decathlon. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu progresser énormément. Donc, il y a toujours un problème d'argent, mais c'est est-ce qu'on le distribue ou est-ce qu'on le réserve à une élite?
Alors, dans un pays comme le nôtre, c'est quand même très, très dommageable d'entendre ce que tu viens de dire.
Inentendable.
C'est 70 athlètes, c'est quand même pas la fin du monde.
Non, mais c'est inentendable de dire que parmi 70, il faut savoir si, en fait, dans les 70,
par rapport aux autres pays, c'est énorme. C'est rarissime dans le monde, ça.
Non, mais moi, je vais pas rentrer dans ce débat d'effectivement de ces fameuses journées de sport où on dépense de l'argent. On ferait mieux de mettre cet argent dans l'aide aux sportifs. Non, moi, là, j'avais une question par rapport à la culture des disciplines de vitesse. On est aussi de moins en moins présents. Pardon, mais un Christophe Lemaitre, 100 mètres, 200 mètres, ça fait quoi?
Jimmy Ducos, Christophe Lemaitre, il y en a.
Ça fait 10 ans, 15 ans, on avait quand même une culture de la vitesse, même du 110 mètres, alors,
même Marie-Jo.
Oui. 110 mètres, on est encore présent, quand même.
Oui, on était présent, et heureusement.
On est plus tout seul.
Oui, mais quoi, heureusement que. La deuxième performance de l'année, on l'attendait un petit peu, quand même.
Ouais, après, c'est.
Mais on a perdu un savoir-faire, on a plus de coach spécifique dans ces disciplines-là, parce que c'est aussi celles qui font la vitrine du sport. Pardon, l'athlétisme, il y a plein de disciplines, mais les disciplines de lancer, c'est même quand t'as des stars, c'est quand même plus difficile pour ces disciplines-là de porter l'athlétisme. Bah, on a besoin.
C'est pas les disciplines phares. C'est
exactement.
Ouais, le saut à la perche, c'est pareil. Il y a eu trois Français en finale. Ça n'a pas suffi pour aller chercher la médaille. Ça revient un peu à ce que tu dis. Non, il y a toujours le savoir-faire, mais est-ce que l'écosystème est pris au sérieux? Je pense pas.
L'écosystème de l'encadrement?
Ouais, de tout ça en fait. En fait, c'est un peu. Je me tire une balle dessus.
Vas-y,
je suis coach aussi. Je suis au quotidien. J'entraîne Sacha. On n'a pas fait de médaille. Ça fait 2 ans qu'on essaie de faire quelque chose. Il manque un petit truc. Moi, je sais que ça va péter, pardon. Mais il faut être patient et il faut que je reste positif parce que c'est mon métier. Et puis je le vois au quotidien. Mais ça ne suffit pas avec que ça soit Willem ou juste pour passer au-dessus. Il manque quelque chose, peut-être au niveau mental aussi. Mais en reprenant ma position de fan d'athlète, il manque un step parce que peut-être que inconsciemment, je dis inconsciemment. On est français, on sait faire, c'est bon, ça va aller.
Il y a moins d'arrogance.
Mais comment il peut y avoir de l'arrogance avec les résultats qu'on a dernièrement sur l'athlétisme? Moi, ça me paraît complètement
parce que
fou.
On reste quand même un sport, je te laisse juste après. On reste un sport où il y a beaucoup d'ego. En fait, on est l'athlétisme. Vous vous rendez compte? On est le sport numéro un olympique. Tout le monde en regarde. Et peut-être qu'il y a de la suffisance, peut-être. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y a peut-être de la suffisance. On dit c'est bon, regarde, on a trois Français sur 1500, ça va passer. Il y a trois Français sur la perche, ça va aller. On est six Français. Ouais, un peu peut-être.
Marion.
Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Ladji et en fait quand on regarde sur d'autres sports, et c'est pour ça que je me permettais de comparer à d'autres sports, c'est qu'on a malheureusement également en France les mêmes soucis. Et aujourd'hui, quand on voit que Léon Marchand s'est exilé aux États-Unis pour faire toute sa préparation avant les Jeux Olympiques et qu'il allait chercher un savoir-faire, je pense qu'il y a une raison aussi à ça. On avait quand même un savoir-faire auparavant sur l'athlé. On va parler tout à l'heure de Marie-Jo Pérec, mais la liste pourrait être longue et tu es dedans d'ailleurs Ladji, mais il y avait cette capacité quand même à produire des athlètes. Alors, est-ce qu'on est encore dans la capacité à le faire en France ou est-ce qu'il faut aller chercher de la connaissance ailleurs? Je ne suis pas assez compétent dans la discipline pour répondre à cette question, mais je ne pense pas qu'on puisse se contenter de ce que la France a réalisé dans ces championnats du monde, et je n'accuse en aucun cas les athlètes, mais c'est vraiment un état général global de la situation. Aujourd'hui, la France est effectivement 5e nation européenne, la France est 13e au classement général ex aequo avec la Suisse, avec la Tanzanie, on a une médaille d'or, j'espère qu'on va faire mieux, mais le Portugal est 4e dans ce classement mondial. Je ne pense pas que la France soit en dessous du Portugal en termes de valeur sur le plan des athlètes, sur l'athlétisme, donc je crois qu'il faut quand même viser plus haut. Alors sans vouloir absolument taper sur les athlètes. Par exemple, quand je lis les déclarations de Marie-Julie Bonin, qui était championne du monde en salle à la perche, qui repart Tokyo en ayant simplement obtenu une 8e place, elle a buté à 4m75, alors que c'était la hauteur qui lui avait permis de remporter le titre mondial ensemble, en salle en Chine, quelques mois auparavant. Est-ce que c'est une préparation mentale qui manque? Est-ce que c'est une préparation technique qui manque? Est-ce que c'est les deux? Je sais pas, mais je pense pas qu'il faut se contenter de la situation en disant mais c'est très bien, on a réussi.
Pour rebondir sur, je laisse terminer, pardon.
Pour rebondir sur ce que
tu dis, je suis d'accord avec toi sur les compétences. Voilà, il y a des très bons coachs en France. Maintenant, je pense que c'est le mindset et le terrain qu'on se laisse devant pour pouvoir arriver à être un peu plus professionnel. Si tu veux, la plupart des mecs qui se sont exilés aux États-Unis, que ce soit Ducos, Samba Mayela l'année dernière, qui ont fait des très bons résultats au jeu, ils payent un peu aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus professionnels. Ils font de l'athlétisme professionnel, donc ils n'ont pas d'à côté. Ils ne sont pas là à penser à payer telle facture ou aller faire ci ou aller travailler. Il y a Clara Lieberman qui est sortie de son 800 mètres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle est venue, elle a dit j'ai pas le niveau, je suis en demi-finale. C'est pas là où je dois aller, mais sachez que ça fait que 3 semaines que je ne travaille pas et je prépare le championnat du monde. C'est la réalité. Je dis pas que.
Ouais, mais il faut être conscient. Des gens concrets.
Elle a le niveau pour se qualifier au championnat du monde, mais derrière elle taffe. Donc elle est toujours en CIP avec une entreprise ou elle est détachée en temps partiel. Donc on n'est pas professionnel.
Je ne veux pas dire
que c'est que ça. Ouais, il y a de la suffisance en haut. On se dit on est bien. Et en dessous, il y a de la densité. Mais il y a un moment, c'est fatigant.
Tu nous as dit tout à l'heure, il faut que je sois positif. Mais on sent quand même que ton avis global n'est pas très optimiste quand même sur ce qui se passe en ce moment. C'est quoi? C'est
parce que je le vois aussi.
On aurait adoré avoir Ladji la semaine dernière.
À travers ce genre d'intervention aussi, Ladji, il faut que la clé se bouge, c'est ça. Il faut que la clé entende ce genre de choses.
Je suis entraîneur au niveau de la fédération qui me paye pour entraîner sur le pôle INSEP, mais je suis pas. Je fais des piges à gauche, à droite.
J'ai plein de coachs comme ça.
T'es pas à plein temps.
Plus ou moins, non. Tu vois, le coach de Marie-Julie, c'est pareil.
C'est une question de finance, c'est-à-dire que la fédération aujourd'hui.
Si tu veux être professionnel,
c'est les moyens
qui sont
mis. Oui,
c'est les moyens qui sont
mis. Mais là,
Marie-Julie,
on va revenir en arrière.
Daniel Desévilles, il est à Bordeaux, il a un club, il fait des animations à gauche, à droite pour pouvoir faire venir de l'argent dans un pot commun pour qu'il puisse partir en stage, ainsi de suite. Tout ce qui se passe depuis 20 ans.
Cette énergie-là
et les autres pays, ils sont pas là.
Est-ce qu'il y a pas aussi, Ladji, quelque chose qui est très marquant? C'est moi, j'ai fait les jeux avec toi à Pékin. Il y a plus la loco.
la locomotive.
C'est-à-dire qu'il faut une tête d'affiche bien solide.
Moi, j'arrive à Pékin sur le village olympique. C'est les Jeux, l'athlète. Voilà, la Didou Kouré, il y a les Jeux. Voilà les mecs de l'athlétisme. Tu vois. Aujourd'hui, il y a pas ça. Et pour que notre gouvernement et les gens qui veulent meilleur,
il est blessé. Ouais.
Non mais pour avoir des moyens, nos politiques, les gens qui votent les budgets, ont besoin de ça parce qu'ils brillent par une tête d'affiche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dire on a un tel. Le collectif, honnêtement, c'est des discours, ils s'en tapent. Par contre, il faut une tête. Et l'athlète aujourd'hui manque de ça. Si l'athlète retrouve demain une tête d'affiche, alors peut-être qu'on pourra sensibiliser. Mais pour le moment, ils se contenteront de ce que tu viens de dire. Et on est tous d'accord. On va en finale, on a un collectif soudé, c'est cool. On progresse. On reconstruit. Mais ça fait 20 ans qu'on reconstruit.
Un dernier mot de Ladji, t'es d'accord? Il manque une tête d'affiche, peut-être?
Il en manque plusieurs. Tu sais, l'effet parapluie où les petits sont couverts sans pression de médiatique et ils ont la place de pouvoir grandir tranquillement. J'ai eu cette aide là. T'avais Christine Aron, Ulysse Barber, Rakil, Diagana, et ben je suis arrivé en espoir. J'étais sixième mondial, j'ai pris le temps, donc en 2003, j'ai pris le temps de faire mes armes. 2004, j'ai eu la chance de faire la finale, je tombe. 2005, ça y est, je suis prêt. Parce qu'il y a eu, comme tu dis, ce petit
parapluie.
Là, aujourd'hui, c'est qui la tête d'affiche, ça va être Jimmy. Mais Jimmy, il est en train d'apprendre. Il va apprendre à être un plus qu'un champion et être la tête d'affiche. Mais... Est-ce qu'il a les armes? J'espère. Mais ça va pas suffire, lui tout seul.
Gros programme aujourd'hui, hein, on l'espère justement, Jimmy tout seul. Est-ce qu'on va le voir encore tout seul, être champion du monde? Non, Jimmy Gressier, en plus il n'est pas tout seul, ils sont trois en finale, les Français,
c'est ça,
du 5000 tout à l'heure. Le programme Aurélien Tiercin de cet après-midi de Mon Dieu qu'on va vivre sur RMC.
Alors déjà, il y aura la finale du 800 mètres. Alors il n'y a pas de Française malheureusement. Midi 35, juste avant la grande finale du 5000, donc avec les trois Français, midi 47. Et ensuite, toutes les finales de relais, avec notamment le 4x4 féminin à 13h35, le 4x100 féminin à 14h06 et le 4x100 masculin à 14h20. Et puis, ce sera la fin de la compétition, ce sera la fin de ces Mondiaux 2025.
Et on vivra ça évidemment avec vous tout à l'heure, midi 47, Ladji, pour ce 5000 avec Jimmy Gressier. Merci d'avoir été dans les grandes gueules du sport ce matin, Ladji.
Faut me réinviter là.
T'as été énorme. Mais déjà, t'es arrivé en disant on est pareil que la Jamaïque.
J'ai cru que t'allais
déposer le micro et partir derrière. Justement, les gars, j'ai posé l'argument.
Bah, regardez la Chine, on est devant la Chine quand même. C'est bien, non?
Voilà, t'as été.
J'essaie de gratter un peu.
T'as été grande chose. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vivre les Mondiaux d'athlètes. On va parler de rugby dans quelques instants. Heureusement, les Françaises ont chuté hier en demi-finale face aux Anglaises. Est-ce qu'il faut avoir des regrets? On en parle en quelques instants avec Yannick Corson et Pierre Thévenet. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, on en a eu une belle de grande gueule il y a quelques instants avec Ladji Doucouré qui était avec nous et qui nous fera vivre tout à l'heure avec Aurélien Tiercin le 5000 de Jimmy Gressier, la finale à midi 47 à suivre sur RMC. On bouscule un petit peu nos programmes pour ne rien rater. Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss sont là dans un instant. Vos GG remontent le temps au JO de Sydney 2000. Pas forcément un bon souvenir, on va s'en rappeler pourquoi. Mais d'abord, tout de suite, nos bleus hier étaient tout proche, mais alors tout proche de l'exploit.
RMC, la punchline GG.
Beaucoup de déceptions ce soir. Franchement, j'ai plein d'émotions qui me viennent et je me dis que voilà, on était encore pas loin, mais qu'on n'y est pas encore et que voilà, on va continuer à travailler. Et puis il y a surtout un match la semaine prochaine à aller chercher une troisième place sur le podium d'une Coupe du Monde. Ben voilà, c'est toujours important. Donc voilà, on va évacuer ce match-là et on va essayer de switcher au plus vite pour jouer la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.
La punchline, elle est de Pauline Bourdon-Sansu, demi-mêlée du 15 de France, si près, si loin, nos Françaises à la Coupe du Monde de rugby féminine. Elles se sont accrochées face à leur grande rivale anglaise en demi-finale de la Coupe du Monde, mais ont fini par céder pour s'incliner 17-35. Il n'y aura pas de première finale de la Coupe du Monde pour nos Bleus, mais bien une 17e défaite consécutive contre les Red Roses. On les retrouvera samedi prochain pour la 3e place face à la Nouvelle-Zélande à 13h30. Les Bleus battus en demi. Faut-il avoir des regrets? Mario Bartoli.
Non.
Jérôme Pinault.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Sarah Pitkowski.
Moi, c'est un grand oui.
C'est un grand oui. En accueil, ils nous ont fait vibrer hier. On y a cru avec eux. Lenaï Corson et Pierre Thévenet qui ont commenté le match depuis Bristol. Bonjour les amis.
Salut à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Hello.
Bon, d'abord, tiens, Pierre, il y avait quand même des raisons d'y croire quand on revoit le match, hein, franchement.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, les Bleus étaient dans le match. Elles ont fait douter les Anglaises, même si les Red Roses ont toutes dit le contraire en zone mix derrière. Mais il y a de la déception parce qu'elles ont donné de l'espoir. Elles ont eu de l'espoir. Elles y ont cru. Les Bleus, 60% de possession de balle, 3 fois plus de passes après contact, 2 fois plus de passes dans le jeu. Les Anglaises ont plaqué 2 fois plus que les Françaises. Donc les Bleus avaient le ballon, ont poussé les Anglaises à la faute. Il y a au moins 2 occasions très franches avant la mi-temps de passer devant et de vraiment faire douter les Anglaises qui au final n'auront jamais été menées. Dans ce match, les Bleus devaient tout faire parfaitement pour gagner. Les Anglaises avaient de la marge. C'est pour ça aussi que ça aurait été un exploit de remporter ce match. Et puis en deuxième mi-temps, le banc français est un peu trop faible face aux Anglaises. Elles ont des certitudes. Les Anglaises, elles font aucune erreur en touche, en mêlée, dans les rucks, le jeu au pied. Tous les fondamentaux étaient plus forts côté anglais. On a l'impression vraiment qu'il y avait la place. C'est peut-être une illusion. Peut-être que si on joue ce match 50 fois, les Bleus le perdent 49 fois. Mais c'est vrai que sur le scénario, les Bleus ont mis du cœur, ont mis beaucoup plus d'idées que les Anglaises. Mais en effet, pour la 9e fois en demi-finale en 10 éditions.
Léna Higue, est-ce que les Bleus doivent avoir des regrets?
Oui, pour moi, clairement, en première mi-temps, on manque même 3 opportunités de dingue de marquer dans nos 22 mètres. On manque vraiment de pragmatisme. Vraiment, on se dit, les Bleus ont mis un max d'intensité. Elles ont fait bouger ces Anglaises. Et dès les premières minutes du match, premier ballon du match, on voit Alcroft, la capitaine anglaise, faire un en avant sur un coup d'envoi. C'est des choses qu'on voit très, très, très rarement chez elles. Elles ont fait un nombre incalculable d'en avant, surtout en première période. Et on se dit, mais là, on est en train de faire douter les Anglaises chez elles. Et pour moi, voilà, c'est pour ça qu'il y a des raisons d'avoir des regrets, notamment quand on voit la première mi-temps avec des Anglaises qui sont complètement dans l'erreur, qui sont complètement sous pression, sous les ballons hauts. Elles font des erreurs qui sont vraiment inhabituelles. Et puis de l'autre côté, les Françaises qui tentent tout, qui n'ont rien à perdre. Et on sent qu'elles sont dans le match pour peut-être renverser pour la première fois depuis 2018 les Anglaises.
Ouais, elles étaient peut-être friables. T'es pas d'accord du tout, Jérôme Pinot?
Moi non plus. Pour une fois que je suis d'accord avec Jérôme.
Non, mais vous pouvez pas dire
mais
ça.
Mais non, mais attends, on est en train Jérôme. De dire avec des si et si, et on aurait pu, mais il y a autant d'écarts.
Bah c'est le but des regrets.
Autant Jérôme. D'écarts que le match amical qui a eu lieu juste avant cette Coupe du Monde.
Mais toi, tu regardes que le résultat final.
Où la coach nous dit, on va progresser. Trop tard. Et on l'a constaté. C'est-à-dire qu'on a eu 1000 mal à passer face à l'Irlande. Hier, la sanction, elle tombe. Tu peux te dire, oui, mais si, au début, il y a eu un en avant, on était bon dans les... Oui, ok, d'accord, mais le score final, c'est qu'il y a 18 points d'écart et qu'il y a toujours autant d'écart entre la France et l'Angleterre et que l'Angleterre nous a... découpé.
Je suis pas d'accord avec toi. Et alors.
Je croyais que t'étais d'accord.
Non, je suis d'accord sur le principe que effectivement il y a pas de regret à avoir parce que cette équipe est bien plus forte que nous et que c'est un rouleau compresseur et que même quand on fait des erreurs c'est parce que on est fatigué, on est épuisé parce qu'elles sont tellement physiques, etc.
Mais
on fait une entame de match bien meilleure. On a progressé dans
ça. C'est la meilleure. Mais oui, pas 12 minutes. Mais tu domines 12 minutes.
En fait, 60 minutes plutôt correct. On aurait dû faire un match parfait pour battre cette équipe. On n'est pas capable de faire ce match parfait. On fait un très bon match
du monde.
Et c'est pour ça, et c'est en ça que je dis, on n'a pas de regret à avoir parce que l'équipe en face.
Dans ton rugby,
c'est injouable.
Tu veux pas avoir de regret.
Mais par contre, t'as progressé.
Quand
tu peux pas dire que t'as pas progressé.
T'as joué au basket
progressé.
Un petit peu. Quand tu joues contre des équipes plus fortes et que tu sais que t'es battu par, tu peux pas avoir de regret quand tu.
Mais c'est exactement ce que c'est ce point que je suis sur lequel
tu as été battu par une équipe.
Mais par contre,
avec laquelle tu as une marge.
Oui, mais quand même qu'elles n'ont pas progressé, je trouve ça.
Quand on écoute,
pas juste. Et si tu vois le match, tu vois qu'elles ont progressé.
En écoutant les spécialistes rugby que je ne suis pas, j'entends surtout quelque chose, c'est que les Anglaises ont pas été à leur niveau d'attente, c'est-à-dire qu'elles ont été un peu moins bonnes hier.
Mais oui, mais peut-être parce qu'on a été
peut-être parce que les Françaises, elles les ont bousculées au début
et qu'elles ont mis
aussi elles du temps à ajuster par rapport à ce qu'étaient en train de proposer les Françaises. Et c'est pour ça que moi je dis que, oui, il y a des regrets. C'est pas des regrets sur le score final et qu'elles soient pas passées en finale. Il y a des regrets parce qu'en première mi-temps, il y avait des occasions. Elles étaient à 1 mètre, à 1 mètre 50 de l'embute.
Mais pourquoi tu les rates? Sarah, pourquoi tu les rates? Peut-être parce qu'en face, t'es une équipe qui est tellement solide, physique, intense, que c'est compliqué peut-être.
Tu les rates aussi peut-être parce que tu n'as peut-être pas assez d'expérience, parce que tu te trouves tellement peu de fois en situation de pouvoir marquer contre les meilleures joueuses du monde qu'il y a des hésitations. Et donc, forcément, il y a des regrets.
Et puis, il manque des cadres aussi. Il manquait des cadres.
Il manquait des cadres. Donc. Mais moi, il y a des regrets parce qu'il y avait, dans cette première mi-temps, elles avaient des occasions de mettre 3 essais supplémentaires. Et on le dit, et en termes de chiffres, on était en train de, Pierre le disait, mais en fait, ça fait moins de 30% de réussite quand elles sont du côté des Anglaises. Mmh. Et donc, c'est aussi du réalisme. Mmh. Et il manque peut-être.
Oui, mais si t'es pas capable de l'avoir, tu peux pas avoir de regrets.
Mais c'est parce que tu te retrouves face à des situations comme celle-là souvent et de manière répétitive qu'à un moment, tu vas le mettre le ballon derrière l'en-but.
C'est un vrai progrès, on est d'accord.
Pas de regrets, Marion?
Non, pas de regret, parce qu'effectivement, il y a des progrès, bien sûr. Alors, pour moi, elles ont vendangé trop d'occasions pour arriver à battre ce genre d'équipe. Et ce genre d'équipe, en fait, te pousse à faire 90 minutes parfaites. Et que pour l'instant, malheureusement, les Françaises en sont pas capables encore, à la fois sur le plan physique et à la fois par la densité que l'Angleterre leur impose d'avoir sur 80 minutes. Alors, il y a eu une première mi-temps, effectivement, pleine d'énergie. Mais malheureusement, au retour des vestiaires, les Anglaises ont, elles, appuyé et ont mis une densité supérieure. Et les Françaises n'ont pas été capables de tenir. Moi, je suis persuadée que ces erreurs techniques, elles sont dues aussi à l'impact physique qui est tel que pendant 80 minutes, c'est difficile de tenir.
Alors, par contre,
ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a moins d'écart, ça de manière certaine, que des fissures sont apparues dans le jeu des Anglaises, en particulier dans les couloirs où les Françaises ont été capables de beaucoup mieux les exploiter. Mais quand tu manques, par exemple, de revenir à 7 partout, alors que tu prends un essai au bout de la 5e minute, que tu es capable de revenir, tu manques une pénalité, c'est tous ces petits détails qui, à la fin, font une énorme différence. Mais par contre, les Françaises ont, encore une fois, pour moi, beaucoup progressé. Donc déjà, il y a du positif. Donc quand il y a du positif, il y a quand même beaucoup moins de regrets. Après, il y a encore, quand même, il faut se le dire, aussi une marge d'écart. Il y a une différence de niveau de jeu. Donc tu peux avoir des regrets quand tu es à niveau égal et que tu te dis j'aurais pu passer. Là, il faut quand même être réaliste. Il y a pour moi encore un écart entre les deux nations, mais il se resserre.
Pierre,
non, mais c'est vrai que j'ai entendu parler de sur-régime. Pour gagner ce match-là, il fallait être en sur-régime et on le savait. Et il fallait que les Anglaises soient un peu moins bonnes et on le savait. C'était le propre d'un exploit. On les a pas battues depuis 2018. On peut pas dire derrière, en même temps, elles ont moins bien joué que d'habitude. Ça devait aussi passer par là. Et là où pour moi, il peut y avoir des regrets, c'est que, depuis très très longtemps, on n'avait pas regardé les Anglaises dans les yeux pendant 60 minutes. C'est-à-dire que même aux Six Nations, Jérôme, je t'ai entendu parler du score où le score est très large au final, mais aux Six Nations, quand on perd 43-42, en fait, on est mené 31-7 à un moment du match et on revient en mettant un peu la folie, mais on y croit pendant 2 minutes en fin de match aux Six Nations. Là, on y croit pendant 60 minutes. Où il y a un 14-12 quand Kelly Harbey marque l'essai pour revenir à 14-12, on se dit vraiment ça peut le faire, quoi. Ça peut vraiment le faire. Donc c'est là que pour moi il y a une vraie évolution, c'est que pendant une heure, les Bleus ont vraiment regardé les Anglaises dans les yeux et je pense qu'elles ont vraiment vraiment fait douter les Red Roses.
Benaïg.
Oui, complètement. Et moi je vais peut-être aller sur le côté peut-être émotionnel aussi. On l'a vu. On a vu des joueuses à la Marseillaise en train de pleurer, en train de se rendre compte de ce que c'était de jouer une demi-finale de Coupe du Monde contre... Ouais, mais surtout dedans, la demi-finale où il y a quand même plusieurs joueuses, beaucoup de joueuses aussi qui découvraient déjà la Coupe du Monde, plusieurs joueuses qui jouaient la première demi-finale, plusieurs joueuses qui se rendaient compte que cette demi-finale c'était le plus gros match de leur carrière et qu'on les attendait et que personne ne croyait en elles. Il y a un point important. Fabien Galthié est venu leur donner leur maillot la veille du match et il les a regardées et il leur a dit le scénario en 99. Tout le monde nous voyait, tous les journaux nous disaient que nous aussi on allait perdre ce match, qu'on ne croyait pas en nous, que
99, il aurait fallu... la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande.
Oui, merci de recontextualiser. Merci Pierre.
Mais vas-y, Anaïs.
Et que justement, ce match-là, personne ne croyait en les Bleus. Et finalement, ils avaient créé l'exploit. Et ça a donné une force mais incroyable, ce discours de Fabien Galthié, juste avant aussi le match de nos Bleus, pour aller chercher quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait. Et on sentait que vraiment, elles ont mis le cœur, mais l'énergie. Et on sait qu'un match de rugby, c'est pas que du technique. C'est pas forcément que du stratégique, c'est aussi ce qu'on va mettre sur le terrain. Et là, pour le coup, elles ont mis tous les ingrédients étudiants. On a vu une Gabi Vernier gratter énormément de ballons dans des moments importants. Elles ont soigné la défense. On les a vues fermer à deux. Franchement, moi j'ai trouvé que cette équipe, elle était dingue. Elle aurait pu créer l'exploit. Donc il y a des petits regrets quand même à avoir, notamment sur cette première période.
Elle nous en fait vibrer. En tout cas, effectivement, on est fiers de nos bleus qui sont tombés avec les armes à la main face aux Anglaises. Merci les Naïgues, merci Pierre.
Merci.
C'est pas fini, elle joue la troisième place.
Prochain rendez-vous à Twickenham.
Là, il faut pas de regrets.
Le Canada,
qu'est-ce qu'on va leur mettre
à progresser, elles sont en finale.
Mais Jérôme, insupportable. Je vous rappelle qu'on est la radio de rugby ce soir sur RMC. Il y a le choc Toulon-La Rochelle aussi à suivre à 21h05 pendant le classique OM Paris-Saint-Germain. Dans quelques instants, les GG remontent le temps, tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marion Bartoli, Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault dans les grandes gueules du sport aujourd'hui. Dans un instant, on va ouvrir les portes de votre vestiaire. Tiens, avec cette question, haut niveau et projet de famille, est-ce compatible? On va partir d'une petite phrase de Lewis Hamilton cette semaine qui nous a inspiré ce vestiaire. Mais d'abord, les GG, triste anniversaire, il y a 25 ans, notre reine de la piste quittait les Jeux de Sydney avant même la cérémonie d'ouverture.
Marie-Jo Perrec et son compagnon Antoine Mébank, piégé par une caméra australienne. L'Américain s'énerve et course le caméraman dans l'aérogare.
Écoute-moi bien, si tu t'approches à nouveau, je vais vraiment te faire mal. T'as bien compris?
La police s'en mêle. Le couple est alors entendu pendant près de 11 heures. L'ambassadeur de France intervient. Finalement, ils sont relâchés. Sans attendre, ils prennent le premier vol pour Paris.
La triple championne olympique et championne du monde a craqué. Marie-José Perrec ne participera donc pas aux Jeux olympiques. C'est la surprise, la consternation, l'incompréhension.
Raison officielle de son départ, une agression dans sa chambre d'hôtel. La direction d'établissement dément.
On était suivis en voiture, on était fiers au stade. On m'a dit que j'avais un paquet, donc j'ai ouvert la porte. Et ben, y a quelqu'un qui a forcé la porte et qui voulait rentrer. Est-ce que ça vaut le coup de faire du sport dans des conditions pareilles?
Les GG remontent le temps en 2000. Marie-Josée Perrec quitte les Jeux alors qu'elle est double championne olympique en titre du 400 mètres et vise un triplé inédit. Oui, mais voilà, la pression médiatique, vous l'avez entendu, en Australie est terrible. Le pays roule pour sa grande rivale Cathy Freeman, porteuse de la flamme et icône de la réconciliation avec le peuple aborigène. Marie-Jo dit avoir été menacée, vous l'entendez, jusque dans son hôtel. Elle n'était pas au village. La pression est trop forte. Elle quitte Sydney. La médaille d'or de la fuite pour Marie-Jo, dira France 3 en ouverture de son JT. Elle fera deux interviews et s'éloigne ensuite de la lumière médiatique pendant des années. La question qu'on va se poser dans quelques instants, c'est est-ce que la France est parfois trop dure avec ses champions? Mais d'abord, peut-être une réaction par rapport à tout ça. Fred, toi, tu étais à Sydney en 2000. Tu l'as vécu en étant là-bas, ce qui s'est passé avec Marie-Jo. T'en souviens?
Oui, je me souviens très bien, bien sûr. Ça avait fait quelque chose d'incroyable. Vous savez, ces vrombissements, un petit peu des bruits qu'on entend qui arrivent petit à petit vers vous. Et c'est vrai que c'était très surprenant. Nous, on ne s'attendait pas à ça. C'était notre tête d'affiche. Alors, bien sûr, on avait David Douillet qui arrivait, mais on avait cette tête d'affiche qui arrivait et là et qui repartait dans la foulée. Donc, forcément, ça.
Qui était le porte-drapeau?
Le porte-drapeau, c'est une bonne question.
C'était pas Marie-Jo qui était porte-drapeau à Sydney?
Je suis pas sûr.
On va vérifier ça, le drapeau de Sydney.
Mais en tous les cas, c'était pour nous une icône incroyable. Et d'un seul coup, on se posait plein de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été agressée? Est-ce qu'il y a eu autre chose qu'elle veut cacher? Est-ce qu'elle est partie à ce moment-là? Et j'avoue que chez les Français, on avait vécu ça de façon très difficile parce qu'on s'est dit, notre chance de médaille la plus importante, parce que c'était clairement pas le basket, la chance de médaille la plus importante à l'époque.
Et pourtant.
Mais vraiment, ça nous avait fait un choc. On s'est dit, voilà, on perd encore une occasion de médaille. Cette superstar s'en va. Qu'est-ce qui a pu se passer? Évidemment, les spéculations sont allées bon train. Mais vraiment, ça nous avait marqué.
Tu te rappelles pas du porte-drapeau?
C'était David Douillet,
c'était le porte-drapeau à Sydney. Non, mais Fred, tu pensais que t'avais un gars.
Mais moi, je l'ai pas vu. J'ai vu un gars devant tout mec, tout petit. Je savais pas que c'était David Douillet, moi.
Non, mais c'est vrai, on l'a entendu aussi tout à l'heure. Mais voilà, Marie-Jo, derrière ça, il y a un silence médiatique pendant des années. Du coup, c'est pour ça qu'on se pose cette question aussi. Est-ce que la France n'est pas parfois trop dure avec ses champions, Marion, quand on repense à cette séquence?
Alors cette séquence, elle a évoqué plein d'éléments parce que Marie-Jo en a parlé très longuement dans son livre justement qu'elle a publié cette année. Où en fait, ça partait aussi d'une dépression globale qu'elle a ressentie, puisque derrière, après cet épisode, pendant 3 mois, elle avait même du mal à se laver, à manger, à se nourrir, à voir des personnes. Elle est vraiment tombée dans un état dépressif qui était extrêmement important. Si on veut faire une analyse plus globale par rapport à effectivement les sportives dans leur... Enfin, moi, je trouve que les journalistes en France ont tendance à faire énormément de raccourcis, à avoir une manque de connaissance du sport de haut niveau qui est énorme. Alors, je le disais les années précédentes, pas tous, mais bon, avec un petit peu de une pointe d'humour, mais souvent avec Jean-Christophe, on se bagarrait là-dessus parce que avec Deyaka et Foka et que c'est tout est très tellement facile et que c'est très facile. Je trouve qu'effectivement, par rapport aux presses étrangères, souvent les athlètes français sont pas assez mis en valeur. Et par contre, pour les massacrer quand ils sous-performent, alors là, il y a beaucoup de monde. Je prends l'exemple, par exemple, des presses canadiennes qui, au contraire, font l'inverse et mettent très en avant leurs athlètes. Et vraiment sont capables de faire preuve d'empathie lorsqu'ils sous-performent et au contraire d'être très élogieux lorsqu'ils arrivent à réaliser de belles performances. Et je pourrais prendre les exemples également d'autres pays. Et je pense qu'effectivement, cela a malheureusement une emprise mentale sur les athlètes qui est extrêmement importante, et que les dépressions de sportifs dues à des mauvais résultats par une pression médiatique est énorme, elle est réelle. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les journalistes, je dis pas que c'est le cas de tous les sports, et je fais en aucun cas une généralité. Mais si effectivement la presse française pouvait s'améliorer là-dessus, et en particulier éviter de descendre systématiquement, alors pour le répéter chaque année, ah oui, mais alors les Français, alors vous gagnez pas Roland Garros, et pourquoi vous gagnez pas Roland Garros, et vous avez quand même vous entraîner plus,
après,
et avec des Yaka et des Foka et qui
feraient,
non mais voilà.
De la corporation, hein, mais pour le coup, on n'est pas là, nous, pour aussi être des supporters des athlètes français, nous et les journalistes, hein, je dis. Non, donc, qu'en France, je pense qu'on est loin d'être les pires.
Marion, je vais prendre le contre-pied.
Je dis pas que c'est un jeu de qui est meilleur et qui est le pire.
Tout petit peu plus d'empathie, je pense que ça serait quand même pas mal.
Alors, Jérôme, c'est pas du tout le rôle. Alors, moi, j'ai dit, oui, on est un peu dur parfois, et quand tu reparles de Marie-Jo, elle a rien demandé. Elle était juste très forte sur la piste, c'était pas une communicante, c'était pas, elle avait pas besoin de ça et elle en avait surtout pas envie. En revanche, où moi je viens aussi attendre la perche pour la presse qui parfois tombe sur certains Français, on est quand même des grands spécialistes, c'est notre emblème, les coqs, les pieds dans la merde et la gueule ouverte. Et écoute, le moindre résultat, on est aussi très fiers. On écoute Florian Thauvin tout à l'heure, qui est un très bon sportif et de très haut niveau. Il l'a ouverte comme ça, c'est-à-dire que moi je travaille, moi je. Donc quand tu fais ça, faut être aussi être en capacité
d'assumer.
Bah, de te faire découper.
On est bien les sportifs modestes, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur du monde et si t'es modeste, personne te t'agressera. Par contre, effectivement, si tu commences à ouvrir ta bouche grand, bah tu prendras le retour de bâton.
Attends, il y a des sportifs qui ouvrent pas leur bouche.
On les met plus haut
qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont fait des performances soit chez les juniors. On en parlait avec Paul Seixas, c'est-à-dire qu'on est en train parfois de construire la carrière du sportif avant même qu'il l'ait faite.
Et ça, c'est un peu aussi un
je sais pas si c'est un savoir-faire, mais c'est aussi une culture un peu française, c'est qu'on se voit plus haut alors qu'on est juste sur le chemin d'y aller.
Franchement, excusez-moi, mais pour le coup, en Argentine, par exemple, dès qu'il y a un joueur qui est un peu bon, on dit c'est nouveau Maradona. En Espagne, dès qu'il y a un joueur de tennis qui est bon, on dit c'est nouveau Rafael Nadal, parlez-en à Carlos Alcaraz. C'est pas forcément un mal français, excusez-moi.
Non, mais je suis d'accord, mais c'est peut-être pas un mal français, mais en France, c'est vrai que ça existe beaucoup. Et moi, je suis bien placé pour savoir, parce que quand je suis arrivé, je faisais 2m17, ça n'existait pas, un mec grand. Et donc, on a mis plein d'espérance sur moi, que j'avais pas demandé. Sauf que, quand ça s'est pas passé comme eux le souhaitaient, comme eux l'avaient imaginé, ils me sont tombés dessus. C'est complètement injuste. Exactement. C'est pas moi qui m'étais mis en avant. Mais par contre,
chacun était dans son rôle.
Oui, mais non, ils sont pas dans son rôle de monter autant et de me descendre autant.
Exactement.
En fait, il faut un juste milieu. C'est pas parce que t'as un garçon de 18 ans qui fait 2m17 qui va forcément surperformer. C'est pas lui qui l'a demandé. C'est toi qui suppose qu'il va surperformer. Et je trouve ça un peu triste de se tromper dans ça, dans le jugement, dans le jugement même.
On a remonté le temps avec cette histoire de Marie-José Perret qui a pris la fuite au JO de Sydney. Ça nous fait réfléchir aussi, justement, sur le traitement actuel que l'on peut avoir autour de nos athlètes. Tiens, Marie-José Perret qui sera invitée de RMC Running, votre podcast Running. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Évidemment, dans quelques instants, on va ouvrir la porte de votre vestiaire. On va parler de haut niveau et de projet de famille. Aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton qui a mis le dossier sur la table. À tout de suite sur RMC au 32-16. On vous attend.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.